Vivre marialement le carême. Il n'y a point de nuit en Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je commencerai par vous souhaiter à tous un saint carême, qu'il soit propice au progrès spirituel, aux fertiles résolutions, à nous rapprocher du Créateur et bien sûr à la pénitence nécessaire afin d'expier nos innombrables fautes. Ce que je me propose dans cet éditorial, c'est d'encore une fois vous inciter à vivre avec, en, par et pour la très sainte Vierge Marie, à travers ce temps liturgique qui doit nous emmener avec elle au pied de la croix de notre Seigneur, puis à sa glorieuse résurrection. La Sainte Église appelle ses brebis à ajouter à la croix du devoir d'État celle de la pénitence, principalement le jeûne et la mortification de la volonté, pour mieux la soumettre à celle du bon Dieu. Porter sa croix avec Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous le rappelle au numéro 154 du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Il est bien vrai que les plus fidèles serviteurs à la Sainte Vierge, étant ses plus grands favoris, reçoivent d'elle de grandes grâces et faveurs du ciel, qui sont les croix. Mais je soutiens que ce sont aussi ces serviteurs de Marie qui portent ces croix avec plus de facilité, de mérite et de gloire. Fin de citation. Alors nulle raison d'hésiter, au risque de me répéter. Elle est le chemin le plus court, le plus aisé et le plus sûr pour aller à Jésus. Quel meilleur partenaire dans ce carême que celle que le Saint nomme la confiture des croix? Quelle heureuse compagnie, quel refuge assuré dans la tentation, quelle source de force et de persévérance que la mère des douleurs, elle-même qui a plus souffert dans sa vie terrestre que tous les saints et les justes réunis. Je propose de profiter de ce temps pour apprendre ou améliorer cette salutaire pratique qui est le perpétuel recours à Marie. Provoquons son perpétuel secours par notre perpétuel recours, en particulier pour rester fidèles aux résolutions que nous aurons prises pour ces 40 jours en accord avec notre directeur spirituel qui sera lui le plus à même, nous connaissant, de nous guider vers la mesure la plus nécessaire et la plus raisonnable pour notre âme. Que ce soit la tentation de rompre notre jeûne, celle de démissionner d'un engagement pris ou dans la lutte contre notre défaut dominant, invoquons le nom de Marie pour recevoir la grâce actuelle qui nous évitera de succomber et mettra en fuite les démons qui veulent nous perdre. Une simple oraison jaculatoire suffira. Terreur des malfaiteurs, priez pour nous. Le tout étant de vivre le plus possible en sa consolante présence, vous serez alors édifié des fruits abondants que vous récolterez. Cet exercice est une gymnastique qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain, c'est une grâce qu'on doit demander chaque matin. Par exemple, comme ceci. Ô bonne mère, aidez votre pauvre serviteur à toujours recourir à vous, dans le travail, dans les joies, dans les tentations, dans les peines et dans les croix. Et si j'omets de le faire, rappelez-moi délicatement votre présence pour m'inviter à vous invoquer encore. Afin de progresser dans cette pratique, il est bon d'inclure dans son examen de conscience du soir un examen particulier de notre fidélité au perpétuel recours. Voici d'autres résolutions que je vous propose pour le bien de votre âme et pour la plus grande gloire de Dieu. La lecture spirituelle, le mot est lâché, celui qui terrifie bien des chrétiens. Saint Athanase disait « À celui qui veut marcher dans le chemin de la vertu, rien de plus indispensable que la lecture de livres pieux. » Saint Ambroise, dans la Perfection chrétienne, disait « Elle est la nourriture de l'âme, elle la rend intrépide et forte contre les tentations, lui inspire de saines pensées, un ardent amour du ciel, éclaire l'intelligence, échauffe la volonté, console toutes les peines, elle est enfin la source de cette joie spirituelle qui est la seule vraie et selon le cœur de Dieu. » Certains me diront que c'est un conseil bien facile à dispenser de la part de quelqu'un ayant un amour et une inclination naturelle pour la lecture. Raté. Pardonnez que j'évoque mon cas personnel, je suis un paresseux pathologique et j'ai acquis la fidélité à la lecture par un effort incessant, mais surtout par la grâce de Dieu obtenue par la prière. Il n'y a encore pas si longtemps, je pouvais passer des mois sans ouvrir un livre. L'appétit vient en mangeant, et aujourd'hui, Dieu m'ayant octroyé tant de lumière et de grâce en récompense de mon effort à lire davantage, je ne peux plus m'en dispenser, comme si mon salut en dépendait. Cette digression a pour fin de réprouver d'avance vos voix intérieures, qui sont du démon, qui vous murmureront sans doute « La lecture, ce n'est pas pour moi, je trouverai un autre moyen de me sanctifier. » Si vous ne le faites pas durant le Saint Carême, quand le ferez-vous ? N'oubliez pas que, comme en tout, la quantité importe peu, c'est encore la fidélité que vous devez viser pour plaire au bon Dieu et à sa très sainte mère. Que votre résolution en ce sens soit donc raisonnable et proportionnée à ce que vous êtes et au temps dont vous disposez. Le carême est d'ailleurs un temps opportun pour identifier tout ce qui est chronophage et nuisible à notre salut. Le temps passé sur Internet et les écrans en général, l'oisiveté, à ne pas confondre avec le repos du juste, l'anarchie dans l'emploi du temps, le divertissement excessif, etc. Tout ce temps que nous ne perdrons plus en fidélité pourra être employé à de pieuses lectures. Mariale, par exemple. Ou à l'oraison. Sans transition, parlons de l'oraison. L'abbé Castelin, que j'ai eu l'insigne honneur d'avoir pour directeur en retraite mariale Montfortaine, nous conseillait de ne pas chercher à midi à 14h dans le choix de nos pénitences. La meilleure, selon lui, c'est le quart d'heure d'oraison quotidien. Pour ma part, il y a peu que j'y suis fidèle, mais je peux d'ores et déjà témoigner de la véracité de son affirmation. En effet, c'est un palier ardu à franchir et qui coûte beaucoup à notre volonté, c'est pourquoi il est méritoire de s'y atteler. En effet, lorsqu'on a déjà une vie spirituelle réglée, à savoir prière du matin et du soir, chapelet quotidien, communion hebdomadaire et confession mensuelle, la fidélité à l'oraison nous ouvre à un monde inconnu et insoupçonné, un paradis céleste où prospèrent les consolations et les ressources qui nous sont nécessaires pour tenir face à l'adversité et l'esprit du monde. L'oraison en union avec Marie nous rapproche de cette auguste souveraine et nous aide à trouver refuge en son sein maternel et y goûter le lait de la grâce qu'elle dispense à tous ses enfants qui en font la demande et qui s'humilient devant sa grandeur et ses privilèges. Méditez chaque jour, par exemple, un article du traité de la vraie dévotion, ou du Salve Regina, ou mieux encore, pour rester dans l'esprit de pénitence auquel la Sainte Église nous invite, ces sept douleurs, qui sont, je le rappelle, la prophétie de Siméon, la fuite en Égypte, la disparition de l'enfant Jésus au temple, la rencontre de Jésus portant sa croix durant le calvaire, Marie debout au pied de la croix, le corps inanimé de Jésus remis à sa mère, et enfin, l'ensevelissement de Jésus dans le sépulcre. Mais maintenant, je vais vous parler de la plus solide des dévotions, le Saint-Sacrifice de la Messe. On ne dira jamais assez les grandeurs du miracle perpétuel qui se déroule sur les autels. Il est même parfois difficile à croire, à mesurer, à saisir l'amour infini que le Seigneur a pour nous en nous renouvelant les mérites propitiatoires qu'il nous a obtenus lors de sa passion et de sa crucifixion à chaque fois que le Saint-Sacrifice de la Messe est offert par l'un de ses ministres. Les Pères Montfortins proposent une méthode pour entendre la Sainte Messe en union avec Marie que je vous résume ici. Au moment où va commencer le Saint-Sacrifice, dites-vous avec un grand respect, me voici sur le calvaire. Au confiteor du prêtre, songez aux angoisses du Sauveur dans le jardin des Oliviers. Faites un court examen de vos péchés et élevez votre cœur vers la très sainte Vierge, elle vous préparera à vous immoler avec son Fils. L'introït et le Kyrie vous rediront les soupirs ardents de la Vierge qui avancèrent la venue de Jésus sur la terre. Le Gloria vous redira le chant des anges, à sa naissance dans l'étable de Bethléem. L'Épître et l'Évangile rappellent les merveilles dont Marie fut témoin durant la vie du Christ. L'offertoire, c'est le mystère de la présentation de l'enfant au temple, où notre mère, pour notre salut, offrit à Dieu le Père cet inestimable sacrifice. La consécration, sommet de la Sainte Messe, nous rappellera l'immolation de Jésus au calvaire, et l'union parfaite de Marie debout au pied de la croix, sans se révolter du sort de son Fils, par amour pour ses enfants spirituels que nous sommes, et qu'elle a enfantés dans la plus vive des douleurs à cet instant. Et enfin, la communion, où nous considérerons que le fruit de ses entrailles nous est donné par elle une fois encore, après lui avoir demandé de venir habiter dans notre cœur pour recevoir Jésus, nous pouvons lui offrir par ses douces paroles. Mère, voilà votre Fils. Autre conseil, le chemin de croix en union avec Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort propose une méthode pour cette si noble pratique qu'est le chemin de croix en union avec Marie. Si vous avez la chance, comme nous l'avons au prieuré Saint-Louis de Nantes, d'avoir un chemin de croix en commun chaque vendredi de carême, ne soyez pas avare de votre temps et allez y cueillir les mérites et les indulgences qui y sont attachées. Cet exercice est sans doute le plus parfait pour obtenir la contrition de nos péchés et le ferme propos de ne plus retomber. La tradition nous enseigne que la très sainte Vierge Marie, après l'ascension de notre Seigneur, retournait parfois à Jérusalem sur le chemin qui mène au Golgotha, revivant dans son cœur les souvenirs déchirants de sa passion. Méditons alors sur la profondeur de ses sentiments et de sa douleur, en ravivant ses souffrances par sa parfaite oraison. Heureuse l'âme qui parcourt le chemin de croix, se rappelant avec gratitude que la passion est la source de notre salut et que notre mère, dévorée par les angoisses, a voulu offrir les déchirements de son cœur par amour pour nous. J'ai essayé d'aller à l'essentiel. Il est évident qu'il existe bien d'autres manières de vivre saintement le carême. mais celle-ci me semble opportune. Regardons la disposition des apôtres et celle de Notre-Dame après la mort de notre Seigneur sur la croix. Eux perdaient la foi, noyés dans un trouble indicible. Elle, restée la dernière bougie allumée dans le monde, habitée par l'espérance certaine de sa résurrection imminente. Le père de Rouville, dans son Imitation de la Très Sainte Vierge Marie, nous livrait cette considération. Les apôtres, avant la résurrection et la descente du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, étaient lents à croire, lents à comprendre, lents à suivre la volonté de Dieu. Mais eux, contrairement à nous, n'avaient pas ce trésor que nous possédons, à savoir la certitude que la promesse est accomplie, le Christ est ressuscité, son sang nous a lavé de nos iniquités, et il nous appelle à sa suite pour glaner la béatitude éternelle. Alors ne soyons pas lents à croire, lents à espérer, lents à aimer et servir notre Dieu et notre prochain. Nous n'aurons pas l'excuse au jour du jugement de ne pas avoir été prévenus ou de n'avoir point su ce que le Seigneur attendait de nous. Quelles furent les exigences de Notre-Dame quand elle nous honorât de ses apparitions à la Salette, à Lourdes et à Fatima ? Priez, mes enfants, et faites pénitence. Que ses enfants l'entendent, et que son cœur douloureux immaculé nous obtienne la fidélité, le zèle et l'obéissance filiale à ses exhortations. Ô Marie, reine des cœurs, priez pour nous pauvres pécheurs, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.